Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Au lendemain de la fin de la visite officielle de la première ministre française en Algérie, gros plan sur les liens entre les deux pays et sur l'importance de la question mémorielle, notre invité sera l'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. 8 corps de migrants ont été repêchés au large de la Tunisie, une découverte macabre au large de Zarzis dans le sud-est du pays. 5 Français sont retenus en Iran, une annonce aujourd'hui de la ministre française des Affaires étrangères. Regard sur le dialogue interreligieux dans votre édition. Les fêtes religieuses, comme le Maolid samedi dernier, sont propices à ce type de dialogue, nous dira le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Raleb Bencher. La première ministre française Elisabeth Borne a dressé un bilan positif de son voyage de 2 jours en Algérie. C'était son premier déplacement à l'étranger, une visite officielle qui a permis selon elle aux deux pays d'avancer vers un partenariat renouvelé inscrit dans la durée. La chef du gouvernement s'est réjouie de progrès dans le rapprochement bilatéral. Pour la première ministre française, le partenariat renforcé s'axe sur 3 piliers, l'économie, la mobilité et les visas, ainsi que la jeunesse. Côté algérien, le Premier ministre a salué une grande convergence sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au-delà de cette coopération, regard sur les liens qui unissent la France et l'Algérie avec l'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale.
Le réchauffement des relations entre Paris et Alger répond certainement à un grand nombre de facteurs, notamment les besoins en énergie de la France et de l'Europe et des pays européens dans un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine et des relations à la Russie. Mais au-delà, il y a une question historico-mémorielle qui est importante pour la France, pour la société française et que le président Emmanuel Macron avait déclaré vouloir traiter pendant sa présidence. Avant même d'être élu, en 2017, il avait qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Et depuis qu'il a été élu, pendant son premier mandat, il a fait quelques gestes relatifs à ce sujet, c'est-à-dire à la reconnaissance par la France du caractère totalement contradictoire avec les principes des droits de l'homme, dont la France se revendique et qu'elle a énoncé même historiquement lors de la Révolution française, de la colonisation. Voilà, Josette Audin, la veuve de ce jeune partisan de l'indépendance et mathématicien Maurice Audin qui a été assassiné par les militaires français. Il a fait quelques autres gestes dans la continuité, dans le sens des préconisations du rapport de Benjamin Stora qui a été demandé par le président à un historien qui est un de ceux qui a travaillé sur cette période coloniale et qui a même était enfant confronté à la fin de la période coloniale en Algérie. Donc c'est dans ce contexte-là que nous nous trouvons. La nécessité pour la France de mettre fin au déni de ce qu'a été la violence de la colonisation et les injustices qui lui étaient liées, et en même temps à la difficulté du président de la République, même s'il a déclaré son intention de s'attaquer à cette question historico-mémorielle, la difficulté qu'il a à le faire en raison de l'évolution, je dirais, de l'opinion française et des forces politiques au sein de la France qui sont plutôt, même s'il y a une bipolarité évidente, sont plutôt dans le sens d'une émergence d'une extrême droite nostalgique de la colonisation et d'une droite dont une partie a tendance à se rapprocher de cette extrême droite. Donc il y a des débats au sein de la droite républicaine sur cette question. Et ce contexte de la vie politique française, où la gauche n'est pas spécialement audacieuse sur cette question de la fin du déni relatif à la période coloniale, rend un peu difficile ce travail d'Emmanuel Macron. Mais on va voir de quelle manière il le conduit.
Un sujet qui est rarement mise en lumière, la question des essais nucléaires. Quelles sont aujourd'hui les demandes de l'État algérien sur ce sujet précis ?
Je dirais que cette question a réémergé, pas forcément du fait des autorités, mais aussi du fait des autorités, mais aussi du fait d'associations d'anciens appelés français qui ont été eux-mêmes victimes des essais nucléaires dans le Sahara et qui ont demandé justice. Donc c'est un dossier qui n'est pas clos parce que les dégâts ont été considérables auprès de ces populations algériennes du Sahara, auprès des militaires français et auprès de l'environnement de ce territoire où les traces sont durables et profondes. Donc c'est un dossier important. Les autorités algériennes s'y intéressent, comme elles sont intéressées au rapatriement des restes de militants anticolonialistes, on peut dire, du 19e siècle. Il y a eu un rapatriement qui a été organisé par les autorités, mais le problème de la présence dans les collections françaises de restes de résistants algériens à la colonisation au 19e siècle, eh bien, elle a été révélée, elle a été soulevée par des Algériens vivant en France qui ont eu connaissance de cette présence et qui ont interpellé les autorités algériennes. Elles ont été longues à réagir. Elles ont fait cette cérémonie parfaitement légitime de restitution. Il reste d'autres éléments dans des collections des musées français. La question est soulevée par des journalistes, par des chercheurs et les autorités des deux pays ne sont pas très promptes à s'en saisir. Elles sont un peu interpellées par ces citoyens algériens, algériens de France ou chercheurs français.
Et quel est aujourd'hui le rapport de la jeunesse algérienne à la question mémorielle ? Porte-t-elle un intérêt fondamental sur cette question ?
La jeunesse algérienne est assez ignorante de cette période. L'enseignement tel qu'il a été organisé dans des conditions difficiles par l'Algérie indépendante n'a pas contribué à donner une image complète, exacte de l'histoire de ce pays. L'histoire précoloniale de l'Algérie, qui est longue, qui est riche, et l'histoire coloniale avec une période turque, une période française, c'est enseigné dans les écoles algériennes et dans les lycées et à l'université de manière très inégale comme qualité. Certains enseignants font extrêmement bien leur travail et d'autres sont plus enclin à reprendre des slogans simples, à oublier que un certain nombre de Français, dirons-nous, avaient, pendant cette période coloniale, dénoncé le colonialisme, même s'ils étaient à contre-courant. Et ça, c'est un peu occulté dans le récit tel qu'il est propagé, le récit scolaire des manuels et de l'école algérienne. Donc les jeunes Algériens sont assez ignorants de grand nombre d'aspects de la révolution algérienne, de la guerre d'indépendance et de la période coloniale.
Et sur cette période, le choix des deux pays, de la France et de l'Algérie, de donner plus de place aux historiens des deux pays, c'est un élément qui vous satisfait. Cela va pouvoir permettre des avancées.
Alors ce choix, d'abord, il faut voir si au-delà des promesses qui ont été faites lors de la rencontre d'Emmanuel Macron avec Abdelmajid Tebboune à la fin du mois d'août dernier. Au-delà de ces annonces, est-ce que ça va être véritablement mis en œuvre ? Parce que pour ce qui est du côté algérien, certains tiennent à ce que ce soit des représentants politiques du pouvoir qui soient dans cette commission, si je puis dire. D'autres poussent à ce que des vrais historiens, et il en existe en Algérie, il y en a de nombreux, en fasse partie. Donc, on va voir comment ça va se déterminer côté algérien, comment ça va se déterminer côté français. Est-ce qu'il va y avoir aussi des gens qui sont là plus par choix politique, de ménager des équilibres, etc., que en fonction de la réalité de leurs travaux. Donc on va voir ce qui se passe dans les deux pays. Il est souhaitable que s'il y a un travail conjoint franco-algérien dans le domaine de l'histoire et de la mémoire, eh bien, ce soit des historiens dont les travaux sont reconnus qui en fassent partie.
L'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. 8 corps de migrants, probablement des Tunisiens, ont été repêchés au large de la Tunisie. Une découverte macabre au large de Zarzis, dans le sud-est du pays. Leur embarcation avait coulé il y a environ 2 semaines. Le Croissant Rouge tunisien précise que les gardes-côtes poursuivent les recherches. 5 Français sont retenus en Iran. Une annonce aujourd'hui de la ministre française des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, la France avait officiellement 4 de ses ressortissants détenus en Iran. Le Quai d'Orsay a appelé vendredi les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais, compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent. 19 personnes ont été tuées, 105 blessées dans les frappes russes massives menées hier sur l'Ukraine. Un nouveau bilan annoncé aujourd'hui par les autorités, des frappes qui ont notamment ciblé la capitale Kiev. Le président turc rencontrera demain son homologue russe, une rencontre à Astana en marge d'un sommet régional dans la capitale du Kazakhstan. La Turquie, qui maintient une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, a offert dans le passé sa médiation pour ouvrir des pourparlers entre Kiev et Moscou. C'est une conséquence de la sécheresse et des pénuries en eau. Quelques 1200 familles ont quitté les marais et zones agricoles du sud de l'Irak ces 10 derniers mois. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, les marais mésopotamiens ont souffert l'été dernier de la sécheresse causée par une baisse des précipitations. Gros plan à présent sur le dialogue interreligieux. Les fêtes religieuses comme le Maolid samedi dernier sont propices à ce type de dialogue, comme nous le dit le président de la Fondation de l'Islam de France, entretien avec l'islamologue Raleb Bencher.
Les fêtes religieuses sont assurément un temps propice à la rencontre, au dialogue interreligieux, a fortiori dans une société dite multiconfessionnelle. En ce qui nous concerne en France, et sous le parapluie, j'allais dire, sous la voûte commune de la laïcité, même si la société n'a pas de référent religieux et elle est majoritairement sécularisée et indifférente à la question religieuse, en tout cas les croyants au sein de la nation française peuvent mettre à profit ces temps forts pour plus de rencontres, d'écoutes, d'échanges, de découvertes les uns et les autres de ce qui fonde à la fois la foi, si je puis dire, de l'interlocuteur, mais aussi son univers festif et spirituel.
Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution du dialogue interreligieux ?
Si on sort, et vous me pardonnez le terme, de l'effet ronron de ce dialogue interreligieux, je pense qu'il a pris une tournure sérieuse. N'oublions pas que le 4 février 2019, il y avait la signature entre le pape François et le grand imam Ahmed Cheikh Tayeb, recteur de l'université Al-Azhar, en ayant signé ce mémorandum de fraternité et d'amitié. Et partout, nous assistons à une prolifération de rencontres, de débats, de symposia, de conférences et tout simplement aussi de discussions entre hommes et femmes de bonne volonté appartenant à des traditions religieuses différentes. Nous ne pouvons que nous en réjouir parce que c'est avec des approches telles que celle-là que une paix véritable, honorable, durable, ayant comme substrat une justice pour tous, que cette paix-là puisse advenir. Et je fais mienne la parole du théologien Hans Kuhn, décédé le 6 avril 2021, qui disait « Il ne peut pas y avoir une paix juste et durable dans ce monde et entre les personnes si déjà au préalable, les adeptes des grandes traditions religieuses ne se mettent pas à dialoguer, à se rencontrer, à échanger dans un climat de paix, de sérénité, de fraternité, où c'est l'homme, l'être humain, homme et femme, sont au cœur des préoccupations des uns et des autres.
Le dialogue interreligieux qui sera au centre du voyage du pape François à Bahreïn du 3 au 6 novembre prochain, ce sera un déplacement historique dans ce pays.
Oui, il faut en savoir gré au pape François qui, malgré sa fatigue, ne cesse d'être un pèlerin de la paix. C'est un pape épris des valeurs nobles et des préceptes réels de l'Évangile qui ont toujours enjoint à l'amour et à la fraternité. Et donc ce pèlerin de la paix ne cesse d'arpenter la terre pour semer le bon grain et pour dire une parole juste et une parole d'amour, de bonté et de miséricorde.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, l'islamologue Ghaleb Bencher. La pénurie de carburant en France, trouver de l'essence reste très difficile. La CGT et Force ouvrière ont reconduit la grève qui touche les deux raffineries françaises du groupe Esso ExxonMobil. Malgré la signature d'un accord majoritaire sur les salaires par d'autres syndicats et chez Total Energy, les grévistes ont également reconduit le mouvement de grève pour les salaires à l'appel de la CGT. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française, à 17h30 pour le journal, à 19h et 23h, votre rendez-vous politique pluriel présenté par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, bientôt 12h17.